Bonsoir à tous, à toutes. Nous démarrons l'émission Une heure en Palestine, programmée tous les mercredis de 18h à 19h sur Radio Galère, 88.4. Cette émission est animée par différentes associations qui soutiennent la Palestine et les droits des Palestiniens. Ce soir, donc, c'est moi-même, Jean-Yves, de Palestine 13, branche locale de l'association France-Palestine Solidarité, qui a préparé l'émission. Donc, en cette période de confinement, l'émission se déroule d'une façon un peu particulière, puisque nous l'enregistrons chez nous, et nous envoyons ça à Sidi, qui est chargé de mettre ça sur les ondes. Donc je le remercie ici. Donc nous agissons en faveur des droits des Palestiniens et si vous désirez avoir des renseignements sur nos activités ou des informations plus générales sur tout ce qui peut se passer en Palestine, on va en reparler, vous pouvez consulter notre site internet. Celui-ci est mis à jour quotidiennement avec de nouveaux articles. Vous le trouverez à l'adresse www.assopalestine13.org. Vous pouvez également consulter notre page Facebook, la page Palestine 13. Voilà. Et vous pouvez aussi nous écrire par mail à asso.palestine13@gmail.com. asso.palestine13@gmail.com. Deux autres sites peuvent vous intéresser si vous préoccupez de ce qui se passe en Palestine. C'est la page Facebook de BDS Marseille. Donc BDS France Marseille, vous le trouverez sur Facebook. Et également la page, le site de l'UJFP, Union Juive Française pour la Paix, ujfp.org. Bien, donc, avant d'aborder d'autres sujets, on va parler un petit peu d'actualité. Donc, l'actualité principale en ce moment, c'est le coronavirus, bien évidemment. Donc, de la même façon que chez nous, on est touché, bien en Palestine, ils sont aussi touchés, même si a priori, dans une mesure bien moindre que ce qu'on peut voir en France. Par contre, l'occupation israélienne, telle qu'elle se présente et telle qu'elle continue à se manifester, en fait, pose finalement d'autres problèmes que ce qu'on peut avoir nous, parce que l'armée israélienne, aujourd'hui, elle agit de telle façon que ses actions font propager encore plus le coronavirus entre les mesures de prévention qui sont bafoués, on empêche finalement les Palestiniens de les appliquer, c'est-à-dire que l'armée a des masques, les Palestiniens, on les empêche d'en mettre. Le ministre palestinien de Jérusalem a été arrêté le mois dernier parce que, d'après l'armée, d'après la police israélienne, Il mène des actions contre le coronavirus à Jérusalem-Est, alors que, d'après eux, Jérusalem-Est ne dépend pas de l'autorité palestinienne, mais uniquement d'Israël, puisque Israël a annexé Jérusalem-Est. Donc voilà, la police israélienne contribue à ce que le coronavirus se propage. entre les crachats des colons aussi sur les Palestiniens, le fait que les Palestiniens, encore plus que d'habitude, sont obligés de rester chez eux, l'armée les y obligeant, les colons n'ont pas les mêmes obligations, donc ils en profitent pour occuper des terres, pour détruire des champs d'oliviers, etc., etc. Donc voilà comment ça se passe en Palestine. De la même façon, à Jérusalem-Est, il y avait une clinique palestinienne qui faisait du dépistage du Covid-19. Eh bien, l'armée israélienne l'a fermée sous prétexte que les kits ont été fournis par l'autorité palestinienne, qui, comme je le disais, n'a pas autorité, d'après Israël, à Jérusalem-Est. Et ensuite, toujours dans le domaine du coronavirus, de cette épidémie qui touche toute la planète, il y a le problème de Gaza qui est encore plus grave que dans le reste de la Cisjordanie. Donc pour l'instant, effectivement, Gaza a l'air, je dis bien a l'air parce qu'on ne sait pas trop, à peu près à l'écart de l'épidémie, sauf que, vu la situation dans ce territoire, donc Gaza, je rappelle, c'est un territoire, c'est une petite bande de territoire avec une densité de population énorme, puisqu'il y a 2 millions de personnes qui vivent en cage, quelque part. En cage parce que Israël a fermé totalement le territoire, que ce soit par la terre, par terre, par la mer ou par les airs. Les pêcheurs de Gaza ne peuvent pas aller pêcher au-delà de 3 miles, c'est-à-dire dans une partie de la Méditerranée où finalement il y a très peu de poissons. Bien entendu, Gaza est entourée d'une barrière de sécurité, comme l'appelle l'armée israélienne, et il n'y a pas d'aéroport, il n'y a rien pour passer par les airs depuis Gaza. Donc Israël, dans ce domaine-là, est bien aidé par l'Égypte, qui a aussi une frontière avec Gaza. Donc en fait, le seul moyen d'être aidé à Gaza, c'est par Israël. Sauf que Israël, effectivement, met beaucoup de conditions à son aide à Gaza depuis qu'ils ont mis en place le blocus, c'est-à-dire en 2006, après que le Hamas, qualifié d'entreprise terroriste, ait pris le pouvoir à Gaza. Je rappelle quand même qu'en 2005, le Hamas avait été élu de façon tout à fait démocratique par l'ensemble des Palestiniens, que ce soit à Gaza ou en Cisjordanie. Et le risque qu'il y a actuellement, c'est que le coronavirus crée un désastre, vu surtout les conditions sanitaires qui existent là-bas, entre les coupures de courant, l'absence d'eau potable. À Gaza, 98% de l'eau n'est pas potable, donc ils dépendent de l'extérieur pour avoir des bouteilles d'eau. Donc, il n'y a pas de. Les hôpitaux, il y a eu deux guerres à Gaza, entre guillemets guerres, mais c'était plus des punitions collectives de la part d'Israël qui ont bombardé en faisant des milliers de victimes civiles. Donc, ils ont détruit des hôpitaux. Aujourd'hui, les médecins de Gaza se battent avec des moyens totalement disproportionnés par rapport à leurs besoins. Donc avant de passer à d'autres sujets d'actualité, nous allons écouter des poèmes palestiniens lus par un auteur, compositeur, comédien.
Bonsoir, je m'appelle Jacques Mandréa, je suis auteur, compositeur, comédien. À la demande de l'association Palestine 13, je vais lire quelques poèmes palestiniens. Le premier, Retour à la mer, de Fadwa Toukan. Île où rêvent nos rêves. Laisse-nous partir. Délivre-nous de tes appels, scintillant mirage, fil de lumière si transparent qu'ils nous ont pris au piège et jetés au désert. île absurde où rêvent nos rêves, tu nous as perdus. Lorsque nous apparut ton ombre fraîche, nous avons dit « Terre, voici l'invitation au repos et de nos pas la récompense. Ici, nous, nous entrons dignes et sauvés. Ici, nous déposons notre fardeau et le chagrin de tant d'années. Nous avons dit « Ici, notre âme oubliera. Nous avons dit « Nous nous sommes dit. » Le vert des prairies battait sous notre espoir. Dieu, comme c'est beau l'espoir pour ceux qui errent au long des routes, pour ceux qui marchent la nuit sans compagnon. Nous avons dit, nous nous sommes dit, ah, belle tromperie, éclatante illusion, quand sur toi nous avons jeté l'ancre, nous rêvions. D'abord, nous avons ramassé les pas perdus de notre vie. Nous avons labouré pour nos semences les sillons de l'amour. Nous y avons planté les désirs, l'amour frais, les nostalgies. Mais la semence, nous l'avions jetée dans le sel. Nous nous sommes trompés, entends-tu ? Nous avons jeté la semence dans les entrailles stériles de la terre, île où demeurent nos rêves. Renonce à te nourrir de nos vains désirs et de nos vies. Garde pour d'autres ta profusion, les méandres de l'ombre et de l'eau. Déjà, nous te tournons le dos. L'espoir s'est tari en nos cœurs. Rivage aux folles couleurs, adieu. De nouveau, notre voilier se livre aux mains du vent. Par lui, nous porterons errance et perdition, oh errance, oh perdition, sur la mer hurlante et sans fond. Nous combattrons la démesure des vagues. Là, nous offrirons nos vies. À la mer, nous laisserons nos vies en holocauste et ce dernier combat. Là, prendrons racine notre errance, notre destinée pour s'affronter. Là, au secret de notre sein, nous mêlerons orgueil et blessure. Bachir, Chalash, Café à Ramallah. Je n'ai pas de nom. Un serpent moucheté l'a avalé une nuit d'été. Je n'ai pas de voix. Elle s'est gâtée par une longue solitude et par la rareté des paroles. Je n'ai pas d'amis. Ils ont plongé dans la blancheur de l'absence, sans leur manteau et leur pull en laine. Je n'ai pas la chance. Mon horoscope pèse sur moi. Je n'ai pas de mémoire, je l'ai perdue d'un coup de soleil. Je n'ai pas de patrie. Un vieux général l'a avalé et les imprimeries ont rayé son nom de la carte. Mon nom, ma voix, mes amis lointains, ma mémoire et mes miroirs lavés par l'ombre et par des images spectrales. Je peux tous les reprendre si je termine ce poème et quitte ce café maintenant, avant la reprise des bombardements. Fayad Ashraf, on dit que tu as bon espoir. On dit que tu as bon espoir de réussir à voler et de défier le trône, d'abroger les ablutions de la nuée, d'enfreindre les lois de la création et ce que Dieu a ordonné aux autres oiseaux d'accomplir. Dieu, sur son trône, il assure leur subsistance à toutes les créatures à plumes qui s'en vont rassasiées alors que tu dois te lever tôt, le ventre creux, pour aller ramasser les immondices dont les gens se sont débarrassés et pour te parfumer avec l'émanation des charognes étalées à perte de vue. Le remède. Tu démentiras toutes les informations, les revues de presse, les analyses des spécialistes en dernier cri de la mode. Tu n'abuseras pas du sommeil et du téléphone portable. Tu t'exerceras un peu à la mort, tu te débarrasseras de toutes les photos que tu as gardées de ton enfance, de ton adolescence, de ta pauvreté, de ton ex-aimé, des contes de ta grand-mère et de tes virées nocturnes. Pour t'attaquer à certaines prétendues vertus, tu utiliseras de l'eau chaude pour ta douche et tu laveras les pieds chaque fois que tu ôteras tes chaussettes. Tu feras tiennes les expériences de ceux qui viendront après toi. Tu écriras ton nom à l'envers sur le miroir, tu mangeras avec la main droite et laisseras le reste à ceux qui méritent plus que toi, ta bouche trempée dans le pétrole. Fayad Ashraf. Logique. La vieille porte applaudit le balai du vent avec les arbres. La vieille porte n'a pas deux paumes. Et les arbres n'ont pas été au conservatoire. Le vent est un être invisible, même quand il danse avec les arbres. Au-dessous de la ligne du silence, oh, les moustiques sont très agaçants. On dirait qu'ils s'adonnent au trafic du sommeil dans ta cellule de prisonnier, comme si ta façon de dormir était une violation flagrante des accords de Genève et autres traités internationaux. Retiens-toi, tu ne peux pas pisser ici, danse un peu, sautille et trouble la gravité des funérailles. Gare, le café aussi est un diurétique. Je suis debout, tout nu, chaque jour, sans jugement dernier, sans que personne ne souffle dans le corps, car je suis d'avance ressuscité. Je suis l'expérience de l'enfer sur la planète Terre. La Terre, cet enfer apprêté pour les réfugiés. Rachid Hussein, Jaffa. À Jaffa, les hauts fourneaux déversent de ces drogues. Les rues poussiéreuses étouffent sous les moustiques et le désespoir. Le cœur de Jaffa ne bat plus, et le long des artères du ciel surgit le cortège funéraire de la lune. Jaffa n'a pas de lune. Jaffa, du sang sur des cailloux. Jaffa, à tes seins, j'ai bu le lait des oranges jusqu'à plus outre. Jaffa, toi dans la houle à abreuver la pluie, toi qui as maîtrisé le temps, tu vois aujourd'hui sur ta plage tous tes membres écartelés et ton dos comme roué. Jaffa, un jardin dont les arbres étaient des êtres, a dépéri aujourd'hui en trou à cam. J'étais à Jaffa, j'ai chassé les rats dans ta tête. J'ai vendu les ruines de tes chevaliers sans monture, j'ai enterré dans ton sable des étoiles et dans tes murailles j'ai sorti des balles de tes os et une fois de plus j'ai ravalé ma colère. J'ai cherché de vieux papiers à jeter, les ai brûlés et inhalé leur fumée comme si c'était du tabac et après ça, je me suis reposé un peu. Mahmoud Darwish à ma mère. J'ai la nostalgie du pain de ma mère, du café de ma mère, des caresses de ma mère. Et l'enfance grandit en moi, jour après jour. Et je chéris ma vie, car si je mourais, j'aurais honte des larmes de ma mère. Fais de moi, si je rentre un jour, une ombrelle pour tes paupières. Recouvre mes os de cette herbe baptisée sous tes talons innocents. Attache-moi avec une mèche de tes cheveux, un fil qui pend à l'ourlet de ta robe. Et je serai peut-être un dieu, peut-être un dieu, si j'effleurais ton cœur. Si je rentre, enfouis-moi, bûche dans ton âtre, et suspends-moi, corde à linge, sur le toit de ta maison. Je ne tiens pas debout sans ta prière du jour, j'ai vieilli. Ramène les étoiles de l'enfance et je partagerai avec les petits des oiseaux le chemin du retour. Sami Al-Kassem, dans la salle des interrogatoires. Ton nom, lequel veux-tu? Le premier, le troisième ou celui qui figure sur mon nouveau passeport? Ton âge? Deux morts printanières une nuit, me cachant une autre, ou bien le jour. Ta première profession, jeune chanteur, celle tombant sur une blessure. Ta profession actuelle, tu es en colère, astrologue tu es, feu épuisé du chanteur, hein, charmant assassin. Ton passe-temps, mourir entre rire et larmes. Ta dernière volonté, que vous sachiez mon nom intégral, unique et sans équivoque. Peut-être aussi que vous me rendiez ma liberté. Sami Al-Kassim, je résisterai. Tu me dépouilleras peut-être du dernier pouce de ma terre. Tu jetteras peut-être ma jeunesse en prison. Tu pilleras peut-être l'héritage de mes ancêtres. Tu brûleras peut-être mes poèmes et mes livres. Tu jetteras peut-être mon corps aux chiens. Tu dresseras peut-être sur notre village l'épouvantail de la terreur. Mais je ne marchanderai pas, ô ennemi du soleil. Et jusqu'à la dernière pulsation de mes veines, je résisterai. Nathalie Abouchakra. À qui de droit? À qui de droit? Mon nom est... qui s'en soucie? La dignité, la résistance, la résilience, ils m'ont tous conduite nulle part. Ils ne sont que des gribouillages sur les murs de mon histoire. Ils sont des rêves par des gens avalés par la gloutonnerie. Ils sont la cause et les faits, les mensonges et les regrets pour effacer et oublier. La honte sur ceux qui me liront, puis s'en iront faire demi-tour. Est-ce moi qui ai fait l'histoire, le passé et le présent, aujourd'hui, demain, partout? Je tiens le mot et la lutte contre l'obscurité et le désespoir, venant de ces grottes de gens blessés, mes ancêtres. Je les entends encore aiguisés et clairs. Je tiens l'existence sur les papiers du bureau, sur les visages dans la foule, sur les tombeaux des martyrs. Je tiens la vie dans les miettes de pain, les bougies, les livres sur une étagère rouillée. Je tiens le conflit avec le rire, avec ces enfants qui m'ont appris à lutter par un sourire et tuer par une prière. Je tiens la justice par la mémoire, avec un poème brisé, un exil et un état de nulle part. Je tiens la mort avec l'éternité, un rêve éternel, un amour éternel, une lutte éternelle, un but, une cause. Je ne sais pas le désespoir. Je suis le subconscient de chaque humain. Vous ne pourrez pas manger, vous ne pourrez pas dormir, vous ne pourrez pas rêver. Je vous hanterai, vous qui avez volé, volé mon propre monde. Je vivrai pour ne pas oublier. Sur ma terre, vous avez volé le fruit, le travail d'un jour, les jours d'un jeûne. Le temps prendra des notes, l'endroit sera témoin. Quand nos enfants le matin se réveillent, quand du lait de leur bouche est pris, quand des symphonies de larmes sont secouées, quand nos mères et pères se noient, impuissants contre leurs bébés, quand notre bougie la nuit a fondu, quand nos yeux gonflés et fatigués dans les champs d'une nuit sans fin crient le sang et perdent la vue, quand nos corps au froid deviennent plus faibles, quand la seule chaleur qui vient est celle des personnes âgées que vous avez cassées, quand vous vous asseyez dans votre refuge doré, asseyez-vous et prenez note. Prenez note. Nos stylos oscillent dans toutes les directions. Ils insistent, persistent et crachent les balles de votre oppression. Prenez note. Nos journaux sont remplis des actes de vos intentions minables, de vos crimes quotidiens contre notre existence, de vos menaces délirantes et de vos tortures atroces. Prenez note. Nos langues vivront pour raconter les contes de votre racisme, de votre monde permettant l'apartheid et de votre haine ignorante. Prenez note. Les enfants grandiront. Ils sont les graines de vos oppressions murmurées. Prenez note. Nous, les minables, les étudiants de ce conflit, monterons et monterons au-dessus de votre cruauté, au-dessus de vos mensonges, de votre fausse solidarité et de fraternité. Nous monterons et monterons avec les flammes de notre volonté passionnée de vivre sur notre terre, avec notre peuple, contre tous vos pièges et labyrinthes mortels. Nous reviendrons vers nos maisons contre votre volonté, contre vos balles et vos tanks et vos grades, contre toutes vos tentatives de faire de nous des bêtes, des sauvages, contre votre soi-disant liberté. Prenez note, ô vous, les cadavres serviles, vous, les dirigeants endormis et les masses distraites. Rachid Hussein, à propos des martyrs. Les martyrs viennent en silence. Les martyrs repartent en silence. Que peux-tu écrire sur eux? Ahmed a fait ses adieux à sa femme en disant « Ô Salma, après la guerre, nous bâtirons une maison. » Ahmed a libéré un homme pendu du Golan syrien. Et toi, qu'as-tu libéré? Avec des mots et des poèmes, qu'as-tu libéré? Pour les martyrs, la meilleure oraison funèbre, c'est le silence. Marche en silence. Avance en silence. Aime en silence. Sois fidèle comme la terre, en silence. Et même si la mort vient, accueille-la en silence.
Je vous propose maintenant d'écouter un morceau de musique, un hommage confiné à Férouz. Confiné parce que chaque musicien joue chez lui et l'ensemble est compilé ensuite par le chef d'orchestre ou un technicien. Et donc c'est l'Orchestre national libanais de musique orientale qui joue. Terminer cette heure en Palestine, donc j'aurais voulu vous parler aussi des problèmes de politique en Israël entre Netanyahou et Gantz, mais ce sera pour une autre fois. En attendant, donc, nous allons pouvoir écouter un entretien de Dominique Vidal, journaliste, avec Ziad Medouk. Ziad Medouk est professeur de français à l'université Al-Aqsa de Gaza et coordinateur du Centre de la paix de Gaza. Il vit à Gaza. C'est un poète et un écrivain, et il est l'auteur de plusieurs livres, dont Gaza, Terre des oubliés, Terre des vivants.
Ziad Medouk, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler, bien sûr, de Gaza face au Covid-19. Et je dois dire qu'il y a un paradoxe, à mon avis. C'est que tout le monde attendait une catastrophe épidémiologique à Gaza, et l'avait annoncée. Or, je ne dirais pas qu'il y a eu une catastrophe, mais s'il s'est passé quelque chose de grave, c'est en Israël, puisque les chiffres de ce matin nous donnent plus de 15 000 malades et 190 morts. Et je ne parle pas de l'hécatombe dans les milieux ultra-orthodoxes, qui forment environ 50% des malades. Et en Palestine, d'une manière plus générale, avant de parler de Gaza, on a, d'après les chiffres officiels d'hier aussi, 329 malades, dont 15 à Gaza, et 3 morts, dont une personne à Jérusalem-Est, très récemment. Comment expliquer cette situation? Quel est le bilan de cette épidémie à Gaza?
D'abord, bonjour. Donc, c'est un plaisir pour moi d'échanger, même virtuellement, avec vous sur la situation à Gaza et en particulier cette période d'épidémie et de lutte contre le coronavirus dans la bande de Gaza. Donc, c'est vrai, jusqu'à maintenant, les cas sont maîtrisés, leur état est stable, mais le plus difficile pour nous, c'est la question qui se pose si il y aura une contamination, s'il y aura un nombre considérable de cas infectés par le coronavirus, quoi, pour trois raisons. D'abord, Gaza, c'est une région peuplée et très pauvre. Deuxième chose, le système sanitaire est très faible. Et troisième chose, c'est une région pauvre et peuplée. Il y a 2 millions de Palestiniens et surtout dans les camps de réfugiés, les gens et les immeubles et les bâtiments se côtoient. Donc, s'il y aura une contamination, ça sera catastrophique. Mais pour le moment, la situation est maîtrisée. C'est vrai, les autorités sanitaires de Gaza, pour la première fois, ils ont coordonné avec l'autorité palestinienne de Gaza. Et même si le blocus est maintenu, il y a trois aspects très importants et plus ou moins contradictoires par rapport à ce coronavirus dans la bande de Gaza. D'abord, il y a une coordination. On n'est pas arrivé à une réconciliation, mais il y a une coordination d'une part entre les autorités sanitaires de Gaza et l'autorité palestinienne à Ramallah, qui envoient des kits de dépistage, qui envoient des antibiotiques, donc de façon régulière. Deuxième chose, les gens, la population du milieu palestinien sont conscients, ça veut dire qu'ils appliquent à la lettre les consignes et les mesures préventives, soit les consignes de l'Organisation mondiale de la santé, soit de l'autorité de Gaza. Et troisième aspect, donc, il y a des centres de quarantaine. Il y a presque 22 centres de quarantaine pour les Palestiniens qui sont rentrés de l'étranger depuis donc le début de cette épidémie.
Pour être précis, quelle est la stratégie qui a été mise en œuvre par les autorités de Gaza? Parce que, tu le sais sûrement, on a en France un grand débat où les autorités ne sont pas très claires, alors que les médecins sont très clairs, les autorités médicales nous disent il faut, un, tester, deux, confiner les malades, et trois, équiper de masques ceux qui sont en bonne santé pour qu'ils puissent étudier et travailler. Comment ça se passe à Gaza? Quelle est la stratégie qui a été suivie dans un contexte, comme tu le dis, de 2 millions de personnes très, très densément peuplées, avec, je crois, les trois quarts maintenant de la population qui dépendent de l'aide internationale ou de l'aide du Qatar ou de l'aide à Gaza même?
Il y a trois stratégies donc prises par l'autorité sanitaire de Gaza. D'abord, nous avons créé 22 centres de quarantaine pour les 2 000 Palestiniens qui sont rentrés, il y a beaucoup de Palestiniens qui rentrent avec le blocus, avec un peu de passage côté égyptien notamment. Mais il y a 2 Palestiniens qui sont rentrés, ils sont mis directement en quarantaine. Donc, ça, numéro un. Numéro deux, il y a le confinement. Donc, le confinement, c'est pas comme en France, ça veut dire qu'on n'a pas encore le couvre-feu, mais il y a un confinement demandé par les autorités de Gaza. Et troisième aspect, donc, prendre des mesures préventives, la fermeture des marches, des universités, les mariages sont interdits, les salles de mariage sont fermées, donc l'enseignement à distance est favorisé, toutes les écoles, les universités sont fermées. Donc, on peut dire qu'il y a des mesures de confinement qui étaient prises et appliquées, soit par les autorités sanitaires de Gaza, soit par la population civile. Une population civile se blocus, mais elle est consciente de danger et de risque de la contamination. C'est pour cela que cette population, donc, elle applique à la lettre les consignes, soit par les autorités de Gaza, soit par l'autorité palestinienne, soit par l'Organisation mondiale de la santé. Donc, on peut dire que ces stratégies, ils ont donné des fruits parce que, heureusement, jusqu'à maintenant, on a 13 cas qui étaient infectés. Il y a 7, ils ont quitté les centres de quarantaine, ils ont quitté les hôpitaux. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de décès, on n'a pas de cas graves, même dans un système sanitaire très défaillant avec le blocus, avec le manque de moyens, surtout que dans les hôpitaux de Gaza, on a seulement 55 lits en réanimation et 55 lits en soins intensifs. Donc, sans oublier le manque d'effectifs et le manque beaucoup de moyens pour la population civile de Gaza.
Ça veut dire, si j'ai bien compris, que pour l'instant, l'épidémie est maîtrisée, à un très faible niveau, mais que ça ne doit pas endormir l'attention internationale, parce que s'il y avait une reprise ou un développement de l'épidémie, les moyens dont tu parles, 55 lits, seraient très vite complètement débordés. Donc, je pense que le problème des respirateurs est en particulier un problème où il faudrait une aide internationale majeure qui permette de faire face à toute éventualité.
Malheureusement, pour l'aide internationale, c'est une aide temporelle. Ça veut dire que ce n'est pas une aide, c'est comme le blocus de Gaza. C'est comme les offensives militaires israéliennes. Quand il y a des offensives, on envoie des aides. Mais nous, on a besoin d'une seule demande, c'est la levée de blocus israélien lui-même. Le plus important, donc cette épidémie, et elle est en train de dénoncer, pas seulement le blocus israélien et pas seulement les mesures atroces de l'occupation, mais elle est en train de dénoncer le comportement et le silence complice de cette communauté internationale officielle. Ça veut dire, regardez, la Croix-Rouge, elle est en train d'envoyer des aides, l'Organisation mondiale de la santé, le Qatar, l'autorité palestinienne, mais ces instances, elles étaient où pendant les différentes offensives militaires, pendant la mort des centaines de Palestiniens, des patients palestiniens qui sont morts à Gaza parce qu'ils ne pouvaient pas se soigner dans les hôpitaux israéliens et aux Égyptiens. Il était où quand il y avait des bombardements israéliens, il y avait où quand il y avait des pêcheurs qui sont morts, qui ont été attaqués par la marine israélienne. Il était où cette instance internationale pendant la marche de retour où il y avait 300 Palestiniens qui étaient morts et qui étaient tués par les snipers israéliens. Donc ça montre un peu que les instances internationales et l'occupation, regardez par exemple, le blocus israélien est toujours maintenu. Les Israéliens, ils ouvrent seulement le seul passage, le passage de Kerem Shalom au sud de la bande de Gaza. Ils ouvrent seulement 4 heures par jour pour faire entrer seulement les produits sanitaires et les produits alimentaires et les tuyaux de carburant pour la station
électrique.
Voilà, seulement à part ça, donc il y a toujours une liste de 900 produits qui rentrent à Gaza par ordre militaire israélien. Il y a les kits de dépistage, on a un manque de kits de dépistage, il y a seulement 1000 kits de dépistage qui sont envoyés par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il y a une réaction, mais il y a une réaction de l'urgence. Mais nous, on a besoin de solutions d'effectifs, c'est-à-dire la fin de blocus et surtout la réouverture des passages et des frontières qui relient la bande de Gaza à l'extérieur.
Encore un mot sur l'activité des Israéliens, parce qu'il y a beaucoup de communication du gouvernement israélien sur l'aide qu'il apporte aux Palestiniens dans cette situation. Et on entend en même temps des choses complètement contradictoires, que moi je résume sous le slogan « Pendant l'épidémie, la répression continue ». Et on a eu des rafles, pas à Gaza évidemment, mais en Cisjordanie, on a eu des arrestations en grand nombre, on a des prisonniers qui meurent, on a des jeunes qui sont assassinés, au checkpoint ou par des raids. Et alors, on a appris hier par Haaretz une chose absolument incroyable, c'est que l'armée israélienne est intervenue contre la police de l'autorité palestinienne qui essayait de faire respecter le confinement à Jérusalem-Est. C'est-à-dire, ça montre combien une politique criminelle peut être en même temps suicidaire. Parce que si le confinement n'est pas respecté à Jérusalem-Est, il ne sera pas non plus à l'Ouest, et les risques de reprise de l'épidémie en Israël sont importants. Donc on a vraiment l'impression d'un double langage, d'un côté une façade où on se montre très humaniste et très généreux, et de l'autre une grande dureté à l'égard d'une population très éprouvée, et c'est vrai à travers le blocus de Gaza, comme c'est vrai à travers la répression en Cisjordanie.
Même à Gaza, donc en dehors des exemples concrets que vous avez annoncés, ça veut dire assassiner les jeunes sur les checkpoints, donc interdire la police palestinienne d'intervenir contre l'épidémie et à Jérusalem-Est, la mort d'un prisonnier donc hier, donc l'arrestation arbitraire de beaucoup de Palestiniens, des centaines de Palestiniens dans les villes et les villages en Jordanie, sans oublier les ouvriers, les travailleurs, donc il y a plus de 100 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail, il y a plus de 150 qui ont été contaminés dans les usines, les champs israéliens, ça en Cisjordanie, à Gaza, et en dehors de blocus, il y a 5 types d'agressions qui se poursuivent. Donc l'attaque de marine israélienne contre les pêcheurs, il y a 3 pêcheurs qui ont été blessés pendant le mois de mars et avril, donc ça montre que l'armée israélienne poursuit ses attaques contre les Palestiniens. Il y a 13 incursions au mois de mars et avril dans la bande de Gaza, au nord et au sud de la bande de Gaza. Il y avait 3 paysans qui ont été blessés. Il y avait un bombardement fin mars, donc suite à un missile lancé par la résistance palestinienne. Donc, il y avait 13 raids israéliens sur Gaza. Maintenir le blocus israélien. Et encore, il y a le chantage israélien parce que ils essayent de mettre la pression. Ils disent que nous, on ne peut pas faire entrer les produits sanitaires et les kits de dépistage si le Hamas qui est à la bande de Gaza, il ne fournit pas des informations sur les 2 et 3 prisonniers israéliens du capital israélien qui sont dans la main des résistances palestiniennes. Donc, même en pleine épidémie, Israël, il a un double visage, comme vous avez dit. Donc, un visage humanitaire devant le monde entier, devant les médias, pour dire oui, on est en train de ouvrir un peu, mais en même temps, la réalité dure, c'est une réalité vécue par les Palestiniens et connue par les Palestiniens et pour les solidaires et pour les experts. Et comme vous, ça veut dire que vous êtes bien informé de la situation. Donc, depuis le début de mars, depuis le début de l'épidémie, soit en Palestine, soit en Jordanie, à Gaza, les agressions, les mesures atroces israéliennes ne cessent de s'aggraver, d'augmenter et pas de baisser.
Peut-être un mot sur la situation économique et sociale, les conséquences de l'épidémie. Bon, je rappelle à nos amis qui nous regardent que Gaza est un territoire très particulier puisqu'il y a environ la moitié de la population active qui est au chômage. Et je le disais tout à l'heure, les 3/4 vivent de l'aide internationale ou régionale. Dans une situation aussi dramatique, quels sont les effets de l'épidémie et de la lutte pour la refouler?
Les conséquences dramatiques, pas seulement sur les travailleurs palestiniens, mais sur les activités économiques en général. Donc, on peut dire que en Cisjordanie, il y a presque 120 000 travailleurs palestiniens qui ont perdu leur travail, soit dans les champs et les usines israéliennes, soit dans les territoires palestiniens. À Gaza, on a 15 000 ouvriers, travailleurs, qui ont perdu leur activité économique suite à la fermeture, suite au confinement. Donc, c'est numéro un.
Juste un mot, Ziad. J'ai lu dans la presse israélienne qu'une partie du patronat était absolument hostile au maintien de l'interdiction pour les travailleurs palestiniens de venir travailler en Israël parce que on est dans une période en Israël de déconfinement progressif et donc il y a besoin de main-d'œuvre et la main-d'œuvre traditionnellement elle est souvent palestinienne.
Il y a une partie qui travaille, mais il y a, comme je viens de dire, on a 250 000, il y a 100 000 qui sont restés là-bas, mais il y a 130 000 qui ont perdu leur poste de travail, ça veut dire qu'ils ont été renvoyés. Et malheureusement, soit à Gaza, soit en Jordanie, ils n'ont pas de récompense. C'est pas comme les autres pays, comme la France, où il y a une caisse spéciale. Donc, avec la crise qui traverse soit l'autorité palestinienne, soit le Hamas, déjà à Gaza, on a, pour parler, pour revenir aux questions sur l'aspect économique, on a 2 millions de Palestiniens à Gaza. Il y a presque 1 million qui, avec leur famille, qui sont au chômage. Et 1 million qui travaillent soit avec l'autorité, qui sont payés soit par les Palestiniens, soit par les Nations Unies, soit par le Hamas. Parce que l'autorité, elle est responsable de 73 000 postes. Le Hamas, il a payé 45 000 postes. Il y a 15 000 payés par l'UNRWA. Il y a 6 000 postes payés par les banques. Il y a 13 par le secteur privé. Mais tous ces secteurs sont touchés avant l'épidémie avec le blocus, les conséquences dramatiques. Donc, une épidémie, elle a aggravé la situation de ces travailleurs. Donc, on peut dire qu'il y a une baisse de 4% de l'économie palestinienne, de produits bruts palestiniens, soit à Gaza, soit en Jordanie. Pour la bande de Gaza, le problème, donc, avant cette épidémie, il y avait le blocus. Mais, donc, la fermeture des écoles, des universités, l'arrêt de travail, le confinement et le double confinement, donc, il a influencé les 2 millions de Palestiniens. Il y a 1 million qui vivent sur les aides économiques, soit fournies par les Nations Unies. Il y a 750 000 Palestiniens qui touchent leur aide économique élémentaire. Le Qatar, depuis 2 ans, il y a un acteur principal dans la vie politique et économique. Donc, voilà. Et il y a quelques ONG locales et l'association humanitaire internationale qui distribuent des aides. Donc, avec cette crise, on est passé de 75% à 83% des Palestiniens de Gaza qui vivent maintenant sur les aides alimentaires. Ça montre un peu que les conséquences dramatiques sont oubliées, qu'il y a 15 000 Palestiniens qui ont perdu leur travail et sont oubliés le transport scolaire, universitaire, donc les commerces, l'épidémie. Qu'est-ce qu'elle a ajouté à la population? Elle a ajouté un double confinement. Donc, on vit le confinement dans le confinement, mais la vie économique était d'ailleurs paralysée avec le blocus, ses conséquences dramatiques, le secteur privé. D'ailleurs, il y a, ça fait 6 ans que, depuis la fin de la dernière offensive militaire israélienne de juin-juillet 2014, jusqu'à maintenant, il y a des usines qui n'ont pas été reconstruites. Même, donc, avant l'épidémie, la situation était très difficile au niveau économique. Et cette épidémie, donc, elle a ajouté un malheur à beaucoup de Palestiniens de Gaza, qui sont en souffrance permanente.
Un dernier mot pour conclure sur la dimension politique des conséquences de l'épidémie. Nos amis savent que ça fait 14 ans qu'il y a une séparation de plus en plus forte entre la Cisjordanie et la bande de Gaza, et en même temps entre le Fatah et le Hamas. On a eu la sensation avec le plan Trump qu'il y avait une reprise du dialogue entre les deux grands mouvements traditionnels de la résistance palestinienne, mais sans conclusion. Est-ce que l'épidémie ne va pas aussi être un incitateur à la reprise du dialogue et à la tentative de reconstruire une unité sans laquelle, à mon avis personnel, il n'y a pas d'issue possible, parce que la dimension palestinienne est forcément une dimension sine qua non de toute issue politique au conflit.
Malheureusement, la division inter-palestinienne, c'est une honte pour nous les Palestiniens, mais c'est une réalité. Le problème, depuis la mort de Arafat en 2004, la décision nationale palestinienne ne vient pas de l'intérieur, vient de l'extérieur. Donc nous avons des axes, donc nous avons l'axe jordanien, égyptien, américain, saoudien, émiratien, qui est allié à l'autorité palestinienne de Ramallah. Il y a l'axe de la Turquie, de la Syrie, l'Iran et le Qatar, qui est allié avec le Hamas. Et donc, deux axes et deux tendances politiques tout à fait opposées. Donc, malheureusement, donc, il y avait une influence extérieure qui a influencé les 14 ans depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui. Donc, il y avait des conséquences dramatiques, pas seulement sur la résistance palestinienne, mais sur la population civile. D'ailleurs, l'exemple de l'épidémie, donc, ça montre un peu qu'il n'y a pas une coordination entre les deux côtés, les deux gouvernements, parce que malheureusement, on a deux gouvernements à Gaza. Donc, il y a une coordination pour les mesures préventives au niveau de l'équipe de dépistage, l'envoi des médicaments par l'autorité palestinienne, donc voilà. Mais au niveau de la coordination politique, il n'y a pas de coordination politique. Donc, à mon avis, c'est pas question qu'on est pessimiste, mais le problème avec deux programmes politiques différents, c'est difficile d'avancer. Donc, en conclusion, puisque vous avez évoqué donc l'aspect politique, donc les Palestiniens de Gaza, avec ce double confinement, ils espèrent 3 choses. Les Palestiniens, ils pensent que maintenant tout le monde vit au pied d'égalité comme les Palestiniens de Gaza, même si les conditions sont différentes. Mais ils voient, donc nous, on est solidaires, les Palestiniens de Gaza, on est solidaires des peuples endeuillés. On envoie toujours des messages de soutien, surtout à nos amis français, italiens, espagnols les plus touchés. Les Palestiniens de Gaza, ils posent la question, et surtout ils s'interrogent, ils disent, des pays développés comme la France, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie n'arrivent pas à faire face, il y a des milliers de morts. Et nous, heureusement qu'il n'y a pas d'épidémie jusqu'à maintenant, mais malgré ça, on s'adapte avec le contexte. Donc, mais pour la population qui vit un confinement, nous, ça fait 14 ans qu'on vit le confinement et on est passé d'une prison ouverte à une prison fermée. Donc, on est solidaire, mais on espère, la première expérience pour nous et le premier souhait, que le monde entier, surtout le monde officiel qui a laissé la population à ce sort de vivre ce blocus israélien inhumain, vivre les conséquences dramatiques de ce blocus, j'espère que ce monde officiel doit donc s'interroger sur le sort de ces Palestiniens après la fin de cette épreuve et à la fin de cette épidémie. Deuxième chose, c'est le plus important, les Palestiniens espèrent la réconciliation. On n'est pas encore arrivé à ça, il y a quelques contacts au niveau sanitaire, mais ils espèrent la fin de la division et l'arrivée de la réconciliation inter-palestinienne. Et les Palestiniens, troisième souhait, ils espèrent la fin de cette situation difficile, la fin de blocus israélien humain, la réouverture de passage et que la paix règne de nouveau dans cette région permanente.
Mais Ziad, si je peux me permettre de te relancer, la trahison de Benny Gantz vient de permettre à Benjamin Netanyahou de sauver son pouvoir, de constituer rapidement un gouvernement dit d'urgence nationale. Mais quand on regarde bien, la première chose que ce gouvernement va faire dès le 1er juillet, c'est faire passer les lois d'annexion d'une bonne partie de la Cisjordanie. Comment imaginer une résistance à cette stratégie absolument suicidaire s'il n'y a pas de réunification? C'est-à-dire, est-ce que, à ton avis, pour parler un tout petit peu plus clair, les directions du Fatah et du Hamas ne vont pas être confrontées à une opinion palestinienne qui n'en peut plus de cette division? Moi, j'ai toujours pensé que les jeunes qui allaient manifester à la frontière à Gaza, et 300 sont morts, tués par les snipers israéliens, ces jeunes manifestaient contre Israël, mais aussi contre le fait que les directions palestiniennes ne faisaient pas leur travail.
Non, je vais être clair avec vous. Il y a trois aspects. Bon, il y a les deux côtés, ils ne sont pas prêts à cette réconciliation. C'est une réalité. Et l'opinion publique palestinienne, elle est fatiguée parce qu'elle a essayé plusieurs choses, soit à Gaza, soit en Jordanie. Mmh. Les Palestiniens, notamment à Gaza, parce que, au moins en Jordanie, c'est plus que parce qu'il y a les murs d'apartheid, la colonisation, il y a les checkpoints. Nous, on est presque libre, mais on est encerclé, donc on est entouré par les chars marines, par les avions, donc voilà. On se dit que comme nos compatriotes en Jordanie, les agressions israéliennes ont quotidien. Mais le plus important, les conséquences dramatiques sur la population civile de Gaza est plus dramatique qu'en Jordanie. Donc, c'est une réalité.
Bien sûr.
Donc, la population de Gaza, les jeunes, les femmes, toutes les tendances, la gauche et l'opposition, ils ont essayé tout. Ils ont essayé des manifestations et les manifestants étaient opprimés. Donc, ils ont essayé de rassemblement. Ils ont essayé, comme vous avez dit, la marche de retour 2 ans, aller sur les frontières pour réclamer la fin de blocus, pour réclamer et exiger la fin de la division, mais ça n'a pas marché. Donc, on peut dire que la population est fatiguée et elle attend un changement radical. On n'est pas là et le changement ne viendra pas de l'intérieur, viendra de l'extérieur parce que tant qu'il y a des acteurs de l'extérieur qui se mêlent dans les affaires internes, donc les Palestiniens, malheureusement, parce que les deux pays ont besoin, soit pour des raisons politiques, économiques, financières, donc ça, c'est une réalité. Donc, on peut dire que les deux côtés, les deux tendances ne sont pas prêtes pour le Fatah et Hamas. Et deuxième chose, la population est fatiguée, mais la population, donc, elle en a marre de cette division, donc elle essaie un peu de se diriger vers l'occupation. C'est ça, parce que nous, on a un aspect psychologique. Si un Palestinien meurt à Gaza, en Jordanie, par la police palestinienne ou par la police de Hamas, ça sera, il ne sera pas considéré. Mais si un Palestinien meurt par des balles israéliennes, ça sera considéré comme martyr. Voyez un peu, les émotions sont très importantes. Mais voyez un peu, c'est pour cela que les gens sont fatigués et ils ont marre de cette division, mais ils ont essayé tous les moyens donc politiques, pacifiques. Ils sont oubliés que les deux côtés, on va parler franchement, les deux côtés sont illégaux au point de vue constitutionnel. Ça veut dire le président Abbas, il a été élu en 2005 pour 5. Ça fait 10 ans qu'il est au nom de la division, il est toujours là. Le Hamas, ils ont gagné les élections qui étaient libres et démocratiques, donc personne ne peut le constater. Mais on peut dire que le Hamas, ils ont été élus en 2006 pour 4 ans. Mais au nom de la division, ils sont toujours là. Il y a des échéances politiques, mais les deux, ils jouent sur la division pour maintenir le pouvoir. Le Hamas, il trouve comme Gaza, comme un trésor pour elle, donc on ne va pas lâcher le morceau. L'autorité palestinienne, elle est basée à Ramallah, donc elle profite de l'échec du processus de paix pour oui, on est là pour essayer. Donc, mais les deux côtés, les deux partis politiques ne sont pas prêts, numéro un. Les deux, et la population est fatiguée, notamment à Gaza. Donc, si on prend Gaza, on a 73 000 Palestiniens de Gaza qui sont toujours payés par l'autorité palestinienne. Le Hamas, depuis sa venue, il a créé 45 000 postes. Ça veut dire, ces Palestiniens, ces 73 000 fonctionnaires de l'autorité et 45 000 de Hamas, et ils sont attachés à des partis politiques. Donc, pas être critique à leurs partis politiques, sinon ils vont perdre leur poste de travail. Donc, on n'est pas arrivé à un état démocratique où il y a une séparation entre la vie professionnelle et la vie politique. Donc, ils ont joué sur la division, les partis, ils ont joué sur le blocus, les agressions israéliennes pour gagner le terrain. Donc, à mon avis, les deux côtés, au niveau politique, ne sont pas prêts et les acteurs externes qui dirigent ces dirigeants de Gaza à Ramallah, ils ne sont pas prêts à lâcher les morceaux parce qu'eux, ils ont des alliances politiques. Pour cela, à à mon avis, tout est compliqué. Pour, voilà. Et donc, la pression sociale et politique et pacifique existe, mais à mon avis, la population, notamment à Gaza, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de blocus, elle est fatiguée de la division, elle est fatiguée des agressions israéliennes, elle est fatiguée des différentes offensives, des conséquences dramatiques. Pour cela, ils ne sont pas prêts d'aller manifester pour réclamer la division, mais ils espèrent, donc, avec le double confinement. Mais je pense que cette nouvelle épidémie, c'est une occasion aux deux parties de réfléchir, mais n'est pas optimiste avancer dans la réconciliation. Maintenant, côté israélien, il joue sur ça. Faut pas oublier qu'il y a un acteur principal, c'est côté israélien qui joue sur la division palestinienne. Soit Gantz, soit Netanyahu. Nous, on n'a pas de confiance de cette alliance entre Gantz et Netanyahu. Même le gouvernement de gauche à l'époque, le Parti travailliste, ils n'ont jamais appliqué le projet de paix. Donc, c'est pour cela, nous, on n'a pas peur ni de Trump, ni de cette alliance. Donc, je sais qu'ils ont un plan d'annexer le Valais de Jordan et la Jérusalem-Est et une partie de la Jordanie. Mais pour nous, il n'y a pas grand-chose, il n'y a pas de changement. Même les travaillistes à l'époque, ils avaient toujours la même mentalité coloniale d'apartheid. Donc, il n'y a pas de changement. La différence que le Parti travailliste prétend être pour la paix. Or, sur le terrain, il y avait toujours la colonisation, il y a toujours le mur d'apartheid, il y a toujours les mesures atroces. Au moins, Netanyahu et Lieberman, ils sont directs. Maintenant, avec l'alliance entre les deux côtés, Lieberman et Gantz, donc ça ne va pas changer quelque chose, parce que la politique israélienne n'a jamais changé, donc c'est l'extrême droite. Mais pour finir, il ne faut pas oublier que, pour revenir à la question sur la vision, que Israël est un acteur principal, ça veut dire quand le président de l'autorité les Palestiniens, Mahmoud Abbas, les Israéliens, venez, on va négocier, on va reprendre les négociations. On dit avec plaisir, Mahmoud Abbas, mais il y a une partie à Gaza qui vous n'arrivez pas à contrôler. Donc, nous, on ne peut pas négocier avec vous tant que Gaza est dans, sur le contrôle de l'autorité palestinienne. Et il envoie des intermédiaires au Hamas pour dire oui, vous restez à Gaza, à condition de ne pas toucher donc les colonies israéliennes. Donc nous, on va ouvrir le passage pour vous. Et donc ils jouent sur la division. Donc à travers le Qatar et l'envoi des aides économiques à Gaza, ils ont réussi par exemple d'arrêter la marche de retour. La marche de retour était par exemple, c'était une stratégie magnifique parce que le Hamas et l'autorité et les factions, ils ont essayé de manipuler, utiliser la marche de retour, mais ça n'a pas marché. Les Israéliens, ils ont réussi à faire la pression contre le Hamas et le Hamas, il a réussi à arrêter la marche de retour, qui était une marche hebdomadaire. Après, le Hamas, il a dit, on va le rendre hebdomadaire, mensuel, mais depuis l'année 2020, il y avait l'épidémie de la coronavirus, après, il était arrêté. Donc, il devait se reprendre le 30 mars à cause de l'épidémie, tout arrêté. Donc, la division, c'était une grande occasion aux Israéliens de continuer leur politique agressive, continuer à agresser la bande de Gaza, continuer à maintenir le blocus israélien, et surtout continuer à annexer donc le territoire palestinien. Donc voilà, tous ces éléments malheureusement empêchent cette réconciliation interpalestinienne, même si la tendance politique, surtout les jeunes, ils essayent, mais à part les réseaux sociaux, ils n'ont pas beaucoup de marge de manœuvre. Ils comptent sur eux, ils sont en train d'attendre, donc ils attendent une solution politique, ils espèrent, donc ils n'ont pas le choix que résister, rester sur le terrain, ça c'est un élément très important. Faire face aux murs d'apartheid et colonies illégaux et légales en Cisjordanie et les checkpoints en Cisjordanie et les conséquences dramatiques de blocus à Gaza. Donc voilà la stratégie aujourd'hui des Palestiniens, en dehors des calculs politiques de deux côtés. On a la population, donc on a confiance en ces populations civiles, soit à Gaza, soit en Cisjordanie. Et je pense, pourquoi cette confiance? Eh bien, que cette population, notamment à Gaza, qui a décidé de rester malgré donc, le blocus, ses conséquences dramatiques, malgré trois offensives en 2009, 2012, 2014. Il y a un point, et je termine là-dessus, que beaucoup de Palestiniens qui ont essayé en 2018, 2019, suite aux attaques israéliennes, suite aux conséquences dramatiques, suite à la situation dramatique, d'émigrer, d'aller vivre à l'étranger, surtout en Turquie. Maintenant, ces Palestiniens qui vivent dans des conditions épouvantables en Égypte, en Turquie, ils demandent de rentrer à Gaza parce qu'ils disent que Gaza, c'est le paradis par rapport aux autres pays, parce qu'ils souffrent, ils voient que tout le monde est confiné et qu'ils n'ont pas le soutien des, comme la population civile de ces pays. C'est pour cela qu'il y a 6 000 Palestiniens qui sont coincés en Égypte. Le passage de Rafah est ouvert donc, la semaine dernière pour faire entrer 2 000. Mais il y a 11 Palestiniens donc, qui sont en Turquie, qui réclament à l'ambassade palestiniens Turquie de revenir à Gaza. Donc maintenant, Gaza est devenu un paradis. Voyez un peu. Donc la résistance des Palestiniens, la résilience et la passion de ces Palestiniens, c'est ça le point fort. C'est ces éléments forts qui font peur, soit à l'occupation israélienne et deux acteurs palestiniens qui craignent donc cette population. Mais pour le moment, cette population est pacifique et surtout les jeunes qui sont en train d'exprimer leur vision, leur avis sur les réseaux sociaux pour le moment. Shut up.